Cet enregistrement est hébergé sur Notes du Mont Royal dans le cadre d'un exposé gratuit sur la littérature.
Cyril Javary, depuis plusieurs décennies, vous parcourez la Chine continentale. Vous connaissez également très bien Taïwan. Vous êtes en cela devenu un sinologue de terrain, par rapport à des universitaires. Vous avez publié de nombreux livres sur la Chine et le dernier s'intitule donc « La sagesse de Confucius ». C'était un livre particulièrement pédagogique où on comprend très bien ce que fut ce grand penseur et puis ce qu'allait devenir sa pensée, puisque du Confucius naîtra le confucianisme et puis le néo-confucianisme. Alors, en quelques mots, Confucius, 2500 ans aujourd'hui,
oui, hein, c'est ça? Oui, 551-479, donc 2500 ans. Mais ce qui fait que la parole de Confucius sonne si juste aujourd'hui, c'est que, en fait, entre son époque et la nôtre, il y a de grandes ressemblances. Bien sûr, pas au niveau matériel, mais dans les deux, des innovations technologiques étaient en train de bousculer complètement l'ordre social. Alors, à notre époque, vous le devinez, c'est Internet, le portable, etc. Et la seule chose dont on est sûr, c'est que nos enfants vivront pas dans le monde de nos parents. À l'époque de Confucius, c'est la généralisation du fer. La généralisation, avec du fer, vous faites des charrues mordantes.
Des roues.
Et des épées puissantes. Avec des charrues qui sont efficaces, vous décuplez la production agricole, donc vous décuplez la population. Alors, ce qui était des provinces chinoises vont devenir des États, et il va falloir les gérer autrement, parce que le système féodal ne fonctionne plus. Et puis également, ça change l'art de la guerre. Avant, c'était une affaire de nobles, ce qu'on aurait appelé, nous, la guerre en dentelle, et brusquement, ça devient Verdun. C'est-à-dire celui qui va tuer le plus de soldats de l'autre. Et les guerriers en terre cuite de Qinshuangdi font froid dans le dos quand on les voit, et que ça donne une idée de l'horreur que pouvaient être les batailles chinoises à cette époque-là. Donc, dans les deux cas, un monde qui est en train de changer, qui rebat le contrat social, et une voix, celle de Confucius, qui nous apprend, hier comme aujourd'hui, comment se tenir droit et comment agir de façon humaine et bienveillante dans un monde en plein bouleversement.
La politique, le politique, à l'époque de Confucius, est malade aussi.
Tout est malade à son époque. Le système féodal instauré 5 siècles avant ne fonctionne plus. La Chine de cette époque-là ressemble un peu à l'Italie du Quattrocento, c'est-à-dire toute une série de petits États qui partagent une culture commune.
Mais qui se font des batailles.
Et qui n'arrêtent pas de se batailler régulièrement pour l'hégémonie, jusqu'à ce que finalement l'un des plus cruels d'entre eux capture les uns après les autres tous les pays, et ça sera Qinshuangdi qui fondera l'Empire en 221.
Alors Confucius apporte dans cette situation, non pas chaotique, mais en tous les cas de grande transition, va apporter une parole de sagesse. Alors est-ce que l'on peut dire déjà que Confucius est un philosophe?
Non.
Est-ce que c'est un sage? Oui, ça vous allez répondre oui.
Oui.
Est-ce que c'est un saint?
Non.
Non.
Non, dans la mesure où un saint est quelqu'un dont tous les actes sont parfaits, c'est pas le cas. Confucius a fait des erreurs, s'est mis en colère, a dit des sottises.
S'est trompé, oui, bien sûr.
Bon, il a fait ce que nous faisons tous, mais il a dit une chose tout à fait importante. Il a dit, commettre une faute et ne pas s'en apercevoir, c'est ça la faute. C'est-à-dire que nous faisons tous des erreurs, des bêtises, il y a des tas de moments où nous n'avons pas l'attitude appropriée au moment. Mais ça, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'une part d'avoir son esprit suffisamment aiguisé pour s'apercevoir qu'on a mal agi, et ensuite utiliser cette perception de notre attitude inopportune pour nous en corriger. Et donc, c'est en cela, effectivement, c'est un sage dans la mesure où il nous aide à sortir le meilleur de nous-mêmes.
À nous élever.
À nous améliorer sans cesse.
Cyril Javary, quel lien faire entre Confucius et la religion? Et la religion chinoise?
Oui, oui, même la religion tout court. Alors cela, il y a plusieurs niveaux. Il y a le premier niveau qui est résumé par une phrase, à mon avis absolument magnifique, qui est « Jingweishen er yuanzi ». Mot à mot, respecter les diables et les dieux et s'en tenir éloigné. Pourquoi respecter les diables et les dieux? Pourquoi respecter les superstitions et les religions? Parce qu'il y a des gens qui y croient. et qu'il ne, faut jamais se moquer de la croyance de quelqu'un. S'en tenir éloigné parce que Confucius pense que ce n'est pas utile. Et que lui va nous aider à atteindre ce but qui est finalement le but de toutes les religions, qui est de permettre à chacun de sortir le meilleur de lui-même. Mais pour lui, il n'y a pas besoin de promesses de récompense à cela. Il suffit qu'on ait gravé en son cœur le désir de s'améliorer sans cesse. Et ce désir de bienveillance qui est au cœur de son enseignement. Maintenant, le fait de respecter les diables et les dieux, ça veut dire ne pas participer à la vie religieuse de son pays. Il disait lui-même, si quand je fais un sacrifice, si je n'y crois pas, il n'y a pas sacrifice. Je sacrifie comme si les dieux ou comme si les ancêtres étaient là. Et le comme si est important, parce que ça rejoint presque le pari de Pascal. Mais une fois, lors d'une cérémonie en mémoire des ancêtres défunts, des fondateurs de la ville de Tsufo, sa ville natale, il y a un de ses disciples qui lui demande « Maître, est-ce que les ancêtres défunts sentent l'odeur des plats que nous avons cuisinés en leur honneur ?» Autrement dit, ce que demande le disciple, c'est « Est-ce que les fantômes existent ?» Et cette question…
Et est-ce qu'il y a une vie après la mort ?
Est-ce qu'il y a une vie ? Absolument. Alors, à cette question-là, on ne peut pas répondre. On le saura une fois qu'on sera mort. Mais avant, on ne peut pas répondre.
Et encore, c'est pas sûr. Si on est vraiment mort.
En revanche, Confucius va répondre aux disciples à côté, toujours avec cette manière décalée pour faire réfléchir. C'est son côté socratique. Parce que jamais il ne donne une réponse directe. Si c'était ça, il ferait du catéchisme. Non, il enclenche en nous la réflexion qui va nous amener à l'idée juste. Et il dit à son disciple... Ne suffit-il pas que nous soyons réunis en leur nom ? À savoir, les cérémonies de commémoration des ancêtres fondateurs ne servent pas aux ancêtres fondateurs défunts, ils servent aux vivants. Ils servent aux vivants à se sentir, à se souder ensemble.
À créer du lien.
Et à créer du lien.
À relier.
Et comme il le dit lui-même, quand les plus anciens ancêtres d'un peuple sont honorés, le peuple est au maximum de sa puissance. Et on peut en voir un exemple intéressant dans la Chine actuelle. Lors de mon premier voyage en Chine en 1984, il y avait 14 musées en Chine. Il y en a aujourd'hui 4000. Si c'est pas un moyen de se raccrocher à son passé. Et c'est le problème que nous avons en Europe. C'est que nous essayons de créer une Europe alors qu'on s'est fait la guerre pendant 1000 ans entre pays européens et nous n'avons pas d'ancêtres communs. Nous n'avons pas de figure totémique auxquelles nous pourrions déposer toutes nos rancœurs passées. Charlemagne, ça va pas. Jules César, ça va pas. Et c'est pour ça qu'on patouille et qu'on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas cette racine commune.
Confucius est une racine commune, vous pensez ? Donc vraiment, c'est la base de la morale chinoise ?
C'est la base de la noblesse chinoise. De la noblesse au sens le plus fort du terme, parce que à 28 ans, il a commis un acte révolutionnaire. Il a créé la première école privée du monde. À son époque, seuls les fils de nobles recevaient l'éducation. Et lui, il était intendant d'une famille noble, il l'a laissé tomber et il a ouvert son école privée. Il disait « Je donne mon enseignement à quiconque, ne me donnerait-il en échange que quelques lamelles de viande séchée ?» qui est resté un des fleurons de la cuisine chinoise. Et en faisant ça, en ouvrant son école à tout le monde, il sapait l'édifice féodal. Et il posait cet adage fondamental que pour lui, la noblesse de sang n'avait aucune valeur face à la noblesse de cœur. Et que la différence entre les deux, c'est que la noblesse de sang se reçoit, alors que la noblesse de cœur s'acquiert. Et elle s'acquiert comment ? Par l'étude, par ce qu'il appelle l'étude, qui n'est pas une étude livresque, mais qui est un constant désir de s'améliorer sans cesse. Et c'est en cela qu'il est la racine de la noblesse chinoise.
Confucius propose une morale pour les dirigeants et puis une morale personnelle. Est-ce que son message aujourd'hui est toujours aussi actuel ? On dit de Confucius qu'il est un peu dépassé. On dit de Confucius, ma foi, qu'il défend tout ce qui est hiérarchique, qu'il défend l'autorité, mais pas forcément la bonne autorité, l'autorité de soumission. Que dites-vous à cela ?
Que ce que vous venez de dire n'est en rien ce que Confucius a dit. Ce que vous venez de dire, c'est le confucianisme.
Les reproches qu'on adresse à Confucius.
Ces reproches-là sont tout à fait justes, mais en fait, on le reproche au confucianisme. Et le confucianisme, qui est une caricature, qui aurait horrifié Confucius lui-même, c'est cette manière réactionnaire de réinterpréter le message de Confucius en n'insistant que sur les devoirs des inférieurs, le respect de l'autorité, etc., etc., et en oubliant complètement les devoirs des supérieurs. Et qu'il y a toujours, donc Confucius lui-même disait parfaitement que entre inférieurs et supérieurs, il y avait effectivement une double relation. Les inférieurs doivent obéissance aux supérieurs, mais les supérieurs doivent protection et loyauté aux inférieurs. Et que donc, il ne faut pas confondre cette caricature qui était le fait des dynasties réactionnaires, surtout les deux dernières dynasties chinoises.
Qui ont instrumentalisé Confucius.
Complètement. Et alors, il n'est pas dit que le comeback de Confucius à l'heure actuelle, tout comme l'utilisation qu'on avait faite de Chiang Kai-shek, ne soit pas un peu dans cette veine-là. Mais c'est pas ça, c'est comment dire, quand on utilise le message de quelqu'un, on peut le dénaturer complètement. Combien de gens a-t-on brûlé au nom du dieu d'amour? Donc il faut à chaque fois revenir à la personne, au message, à la source.
Est-ce que l'on peut dire justement que le confucianisme, en tous les cas que dans le christianisme, il y a du confucianisme? Vous parlez de cette bienveillance.
Pas tout à fait. Parce que il y a dans le christianisme quelque chose d'absolu auquel Confucius marche pas. Par exemple, un jour un disciple lui demande « Rendre le bien pour le mal, qu'en pensez-vous » Vous voyez à quoi je fais allusion?
Bien sûr.
Eh bien, ça a énervé Confucius. Il a répondu à son interlocuteur: mais si vous rendez le bien, si vous récompensez le mal par le bien, par quoi est-ce que vous allez récompenser le bien? Et il conclut en disant, récompensez le bien par le bien et le mal par la justice.
Oui, c'est pas tendez la main, la joue gauche ou la joue droite.
Pas du tout.
Les jésuites ont essayé, pourtant les jésuites au XVIIe, au XVIIIe siècle, en introduisant, en faisant connaître Confucius à l'Occident, ont essayé de faire sortir des éléments chrétiens, j'allais dire, du message du confucianisme.
Oui, parce que le problème des jésuites, quand ils sont arrivés en Chine, c'est qu'ils ont vu que ça serait un peu plus difficile qu'en Amazonie et en Afrique. Parce qu'ils butaient devant une civilisation plus vieille que la leur, qui avait déjà ses croyances, ses habitudes, etc. Et donc, ils se sont dit, on va chercher des éléments pré-chrétiens dans la philosophie chinoise, dans les bases de la morale chinoise, et leur montrer qu'on apporte le reste. Et par exemple, ils ont dit, voyez bien, votre grand sage Confucius, il a dit tous les hommes sont frères. Malheureusement, l'ennui, c'est que Confucius n'a pas pu prononcer cette phrase parce que les mots frère et sœur n'existent pas en chinois. Ils n'existent pas en chinois parce qu'ils sont beaucoup trop imprécis. Il existe les mots frère aîné, frère cadet, sœur aînée, sœur cadette, oncle aîné, oncle cadet, qui montrent tout de suite le rapport de hiérarchie entre les deux. Et que donc ce qu'a dit Confucius, c'est sur Terre, toutes les relations humaines sont du type frère aîné, frère cadet. Ce qui veut dire deux choses. La première, c'est que tous les humains font partie de la même famille. Ça va sans dire, mais ça va déjà mieux en le disant. Et la deuxième chose beaucoup plus importante, c'est que nous sommes toujours pris dans un étau de relations hiérarchisées. Nous avons tous quelqu'un à qui nous obéissons et quelqu'un qui nous obéit. Et l'archétype de cela, ce sont les rapports entre les parents et les enfants. Et le principe de base de ce qu'on appelle maladroitement la piété filiale, c'est les enfants obéissent aux parents, point final. Non pas parce que les parents sont d'essence divine, mais parce que bâtir l'éducation sur ce principe est le meilleur moyen d'apprendre aux enfants à devenir parents à leur tour. Et que ce rapport hiérarchique constant en Chine, il est accepté par les Chinois parce qu'il n'est pas figé dans un système de caste comme en Inde, ou dans un système de classe comme en Occident, il est évolutif, puisque les enfants deviennent des parents. Et c'est pour ça que la mobilité sociale en Chine est extrêmement efficace, et que malgré ce que croyait Max Weber il y a une centaine d'années, le confucianisme par contre est extrêmement bien adaptable à la modernité et au capitalisme moderne, parce que justement il y a cette mobilité sociale, il y a ce désir de s'améliorer. Rejouer en Chine dans le cadre du pays et non pas dans le cadre individuel. Et ça sera aussi la deuxième nuance qu'il peut y avoir, vous parliez du christianisme, c'est que le christianisme c'est quand même fondamentalement une relation unique entre une personne et son créateur. Il y manque le côté collectif, il y manque le côté du clan, il y manque le côté du pays. Et il y a une phrase qui est extrêmement présente dans l'âme chinoise. C'est pas pour rien que les Chinois, quand ils énoncent leur identité, commencent par énoncer leur nom de clan. Et seulement après, ce qui les différencie personnellement à l'intérieur de ce clan. Et il y a une expression qui est tout à fait parlante pour cela, de notre idée d'universalité, qui fait que pour les Chinois, il y a un trou entre l'individu et l'universel, et que eux, ils le comblent avec le clan, le pays. Nous, quand nous voulons dire l'ensemble des gens, nous disons tout le monde. En chinois, ça se dit Tajia, la grande famille.
Merci Cyril Djavary. On vous retrouve juste après le flash. Restez à l'écoute de RFI.